Merci Marilyn.
Merci à tous.
C'est plutôt agréable comme dimanche. C'est... Effectivement, on va continuer à labourer ce terrain de être image de Dieu. Et puis c'est vrai que vous m'avez envoyé beaucoup de retours cette semaine. C'était très enrichissant pour moi aussi de me dire que là, on tenait peut-être un os qui nous encourage dans notre vie de chrétienne, de chrétien, partout où nous sommes. Et puis, c'est vrai que c'est un privilège pour moi de pouvoir de nouveau sonder la parole et essayer de transmettre ce qu'elle a de meilleur pour nous, nos vies de chrétiennes et chrétiens dans ce monde. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on cherche l'inspiration assez fréquemment. On cherche l'inspiration souvent chez des personnes qui sont à la base des anonymes, puis tout à coup qui deviennent ce qu'on appelle des aspirateurs ou des influencers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça dépend des générations, je pense. Ça, c'est sur Instagram. Alors, j'ai trouvé cette influenceuse qui s'appelle Audrey Lombard. Vous voyez qu'elle a le petit vu bleu à côté, ça veut dire qu'elle est estampillée influenceur officielle. Et puis, ça veut dire qu'il y a, en l'occurrence, 45 000 personnes qui regardent chaque jour la photo de comment elle est habillée. Voilà. Bon, ça, c'est la petite catégorie parce qu'elle en a 45 000. Et elle, par exemple, elle s'appelle Chiara Ferranier. Elle en a 15,8 millions. Alors, c'est beaucoup mieux. Elle, c'est petit joueur. Moi, j'en ai 300. Hein, donc, donc, on est bien dans la cible, voyez-vous, là. C'est pas mal. Donc, Chiara Ferranier, elle poste chaque jour une même photo que ça, avec à peu près les mêmes habits, simplement qu'il n'y en a pas 45 000, mais il y en a 15,8 millions qui regardent comment elle est habillée. On a besoin de modèles pour savoir comment ça se passe. Ensuite, on passe encore dans une autre catégorie. Alors là, c'est les footballeurs, comme ça. De nouveau, des exemples. Et Cristiano Ronaldo, il a carrément, lui, 150 millions d'abonnés. Ça veut dire que chaque jour, ils reçoivent sur leur fil de téléphone. Ils ouvrent Instagram, là, puis ils reçoivent sur leur fil une photo de Ronaldo avec son fils ou bien avec ses copains, même parfois en train de jouer du foot. Ça arrive de temps en temps, c'est pas très très souvent, mais il y a matière des fois à ce qu'ils jouent du foot. Alors, comme les chrétiens, on essaye de se mettre un peu dans la vague, il y a aussi des chrétiennes, des chrétiens qui deviennent influenceuses. Ah non, d'abord Trump, ouais. Trump, on entend beaucoup parler, mais vous voyez que lui, il est nettement moins bon que Ronaldo parce qu'il a seulement 57 millions d'abonnés. Donc on entend beaucoup plus parler, mais il en a beaucoup moins que Ronaldo, par exemple. Ça donne un peu l'ordre des priorités de notre époque aussi. Toujours est-il que sa cage de résonance, c'est assez impressionnant chez lui puisque tous les journalistes du monde entier suivent ses tweets pour savoir qu'est-ce qu'ils vont écrire dans leur prochain article. Donc, une certaine influence. Et puis je disais, donc, les chrétiens, ici aussi mis, et puis là, on a une influenceuse chrétienne, donc, alors, vous ne voyez pas forcément au premier abord, parce qu'il y a un peu les mêmes photos que d'habitude, mais certaines fois, il y a un verset biblique, et puis il y a une petite pensée positive, ou bien comme ça, puis elle a 117 000 personnes qui la suivent chaque jour comme influenceuse. Alors, que penser de tout ça ? C'est d'assumer qu'on a besoin de modèles. Le seul truc, c'est qu'il faut peut-être savoir où les chercher. Alors là, on va faire un petit saut dans le temps, mais comme illustration, je n'ai pas trouvé mieux. Mais... Parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas Instagram ou temps biblique. Et puis, on va parler de Jean-Baptiste ce matin. Jean-Baptiste, parce qu'il est témoin de la gloire de Dieu. Et puis, j'aime beaucoup cette image malgré tout, parce qu'on voit qu'il est en train de prêcher. Et puis, il pointe sur le Christ. Et puis je crois que voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Être image de Dieu, c'est de pointer sur le Christ. Ce n'est pas de pointer sur moi-même, peut-être comme on fait souvent avec Instagram où on pointe sur soi-même, mais c'est de pointer sur quelqu'un d'autre, c'est de pointer sur le Christ. Alors là, c'est Rembrandt qui a peint ce tableau. Il a bien saisi ce mouvement de Jean-Baptiste qui va nous inspirer pour notre prédication, notre méditation ce matin, qui pointe sur le Christ. Si vous retenir qu'une chose, être image de Dieu, c'est pointer sur le Christ. Montrer sa direction, montrer qui il est lui, plutôt que qui je suis moi. Mais montrer qui il est lui à travers moi. Bon, il y a une photo plus rigolote, si vous voulez, c'est Jean-Baptiste, c'est un peu plus récent, comme ça vous pouvez mettre qu'il a des habits de poutre, d'animaux et tout et tout. Et alors ce matin, on va faire un peu d'exégèse, un poil pointu, je me lance quand même une fois, pour essayer de voir comment la Bible comprend cette idée d'être témoin de Dieu à l'exemple de Jean-Baptiste. Et puis, ce n'est pas forcément un luxe de s'arrêter peut-être en détail un peu dans l'Écriture, parce qu'on voit vraiment que ce n'est pas juste une idée qu'on peut se faire nous, mais que déjà dans l'Écriture même, qui est la parole inspirée de Dieu, donc qui a le Saint-Esprit qui souffle à travers cette parole, on discerne vraiment quel point cette volonté de Dieu pour nous d'être ses images, ses représentants dans le monde. Et on voit que ça s'imbrique de manière assez extraordinaire. Alors, on commence la fin du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez suivre, on va naviguer dans tout le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et puis, il se termine sur cette phrase assez extraordinaire où Jésus dit à Philippe et à Nathanaël, il lui dit « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Que nous dit ce verset ? C'est que le mystère de Dieu, il est venu dans le monde et les hommes ont pu saisir ce que c'était ce mystère de Dieu. Ce n'est pas qu'un mystère, ce n'est pas qu'un homme, on est entre deux. Il y a une échelle, ça rappelle l'échelle de Jacob, où il y a une communication entre la terre et le ciel. Il n'y a pas d'un côté un élément qui nous dépasse complètement et qui reste à nous dépasser complètement les cieux, puis d'un autre, Jésus qui serait venu sur terre puis qui serait totalement homme. On a vraiment cette intersection, et nous, on se situe à cette intersection, et ce verset le résume bien. Au début du chapitre, on est clairement dans la partie supérieure. On est au haut des cieux, comme on l'a chanté beaucoup ce matin. On est dans ce Père qui nous dépasse, qui est au-dessus des cieux. Au commencement était la parole, le Logos. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que quand je lis ces quelques versets, ils sont d'un côté très puissants, mais d'un côté, il y a aussi quelque chose un peu d'abstrait. Ces versets traitent de questions métaphysiques qui nous dépassent. Il est question du logos, que l'on traduit par parole. Il est question de commencement, il est question de création avec la présence de Dieu. Il est question du Fils, du Saint-Esprit. Toutes ces termes, toutes ces réalités, qui en tout cas pour moi, me dépassent complètement. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment au commencement ? Comment était Dieu ? Comment ça s'est déroulé ? Qu'est-ce qu'il y avait dans son esprit ? On traduit tout ça par logos parce qu'on a pensé que c'était une bonne manière de le condenser dans un seul terme. Mais ce que ça montre surtout, c'est que nos termes humains, ils n'arrivent pas à décrire l'entier de ce qui s'est passé à ce moment-là. Avec le prologue, on est vraiment, c'est-à-dire ce qui vient avant le discours, on est vraiment dans cette partie, avec ces quelques versets, un peu métaphysique, métalinguistique. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension où on discute de ce qui va suivre. On discourt et Jean nous donne les clés pour comprendre toute l'histoire qui va suivre. Et ce qui est intéressant, même si ce n'est pas pour le moment très incarné, très réel, très concret, très pratique, c'est que Dieu, dans sa révélation, il a choisi quand même de nous parler par ces moyens-là. Il n'a pas choisi simplement de nous raconter des histoires ou de nous raconter l'histoire de Jésus. Il a aussi choisi de planter le décor avec l'identité de Dieu, quels sont ses attributs, comment est-ce qu'il se révèle à nous. Et pour augmenter notre connaissance, on vient de le chanter, hein, augmente notre connaissance de toi, je crois que nous sommes appelés en tant que chrétiennes et chrétiens à oser approfondir ces textes qui sont peut-être un peu plus compliqués pour notre vie de foi, mais les approfondir et vraiment essayer de comprendre ce qu'ils ont à dire pour nous, pour moi, à notre époque. S'ils sont placés là, même s'ils ont l'air un peu hermétiques, parce que quand on lit ces quatre premiers versets, ça a l'air un peu hermétique, il faut reconnaître, appelons un chat un chat. Ils sont là pour approfondir notre connaissance de Dieu Et sous ces termes-là, si on ne les comprend pas du premier coup, ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais osons les creuser, osons les reprendre, petit à petit, puis vous verrez que c'est comme un peu des écailles qui s'enlèvent pour approfondir notre connaissance de Dieu, sur qui il est, mais vraiment. Et Jean, dans son évangile, décide de commencer par ces attributs-là qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui nous donnent un os à ronger, qui nous donnent une perspective d'approfondissement de sa parole, d'approfondissement de l'être même de Dieu. Peut-être qu'il nous échappe, souvent il nous échappe, et ce n'est pas un malin. Dieu est souvent perçu, si on demande dans la rue, comme un peu au début de ce prologue, comme un peu une essence insaisissable, quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, une force, une énergie. Il ne faut surtout pas que ce soit trop précis. On reste là dans le très vague, et puis c'est une des dimensions de Dieu qui nous échappe. Et du coup, on peut même presque comprendre ce verset, verset 5, donc qui suit immédiatement ce que nous venons de lire, que cette lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. C'est assez juste. Ce n'est pas qu'une parole de jugement, cette lumière qui n'a pas été saisie par les hommes. C'est aussi une parole qui nous place face à la grandeur de Dieu, face à sa sainteté, face à son être qui nous dépasse largement. Et effectivement, cette lumière peut briller et parfois on a de la peine à la saisir. Parfois, on est emprunté. Parfois, on se demande dans quel sens Dieu veut aller. On a toute cette catégorie-là du Dieu invisible, du Dieu qui reste un peu caché à notre esprit, mais on n'en reste pas là. Parce que dès ce même prologue, dès ces 18 premiers versets de Jean, il y a la mention d'un témoin. Il y a des liens narratifs qui sont extraordinaires entre cette image grandiose de Dieu, un peu insaisissable, et déjà insérée dans cette image-là, la réalité du témoignage d'un homme comme vous et moi. Et cet homme, c'est la figure de Jean-Baptiste. Et cet entrelacement, vraiment, il est significatif. Que Jean, dans son inspiration, ait décidé de placer la figure d'un homme comme vous et moi à l'intérieur de cette description grandiose de Dieu, ça signifie quelque chose de très profond pour savoir qui nous sommes en tant qu'image de Dieu sur cette terre. Ce n'est pas un hasard de rédaction puis qui s'est dit, là, bon, ben, je pourrais tout à coup mettre Jean-Baptiste. Ça signifie théologiquement quelque chose de très fort, c'est-à-dire que dès le début de la révélation en Christ, il décide de placer un homme comme vous et moi, Jean-Baptiste, pour nous parler de ce Dieu invisible. Et c'est ce qui se passe. Verset 6, survint qui ? Un homme. Et cet homme, il est envoyé de Dieu, comme nous sommes envoyés de Dieu, et il s'appelle Jean. Il ne vient pas comme sauveur ou quoi que ce soit, il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre, il insiste, hein, témoignage à la lumière. Un peu plus loin, la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, elle a habité parmi nous, nous avons vu quoi ? Sa gloire. Une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. De nouveau, au milieu de la description, on reparle de Jean. Jean, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui rend témoignage. Il s'est écrié, c'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. On retrouve là cette dimension qui nous dépasse du commencement de Jésus qui est déjà auprès du Père, alors qu'il y a la création. Personne n'a jamais vu Dieu, ce Dieu invisible. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père, la révélation en Jésus-Christ. Tout à coup, il devient visible, tout à coup, il se révèle, tout à coup, on peut le faire nôtre et donner notre foi à ce Dieu qui se révèle, qui ne reste pas simplement une force mystique, mais qui vient là, sur cette terre, nous rejoindre sur notre terrain. Et nous, on est appelés sur ce même terrain, en tant qu'homme avec les mêmes caractéristiques que Jean, à rendre témoignage de cette lumière. Cette lumière, elle aurait pu rester cachée pour les siècles des siècles, et Dieu choisit, non, de venir la faire briller sur notre planète, sur notre terre, dans notre contexte. Et c'est ça le cœur de la foi chrétienne. Et c'est cette image-là, précisément là, qui reflète la gloire de Dieu et que nous sommes appelés à porter. Il y a un aboutissement assez extraordinaire dans la personne du Fils, mais qui est déjà préparé par un homme comme vous et moi. Voyez cet entrelacement ? Voyez comment ça se passe quand on essaye de creuser un tout petit peu la parole. Je trouve effectivement ça assez passionnant, de découvrir ces liens-là. Et puis on les lit de manière différente après, quand on les remédite. Et ensuite, dès le verset 19, l'histoire proprement dite, celle qu'on connaît peut-être mieux, l'histoire de l'évangile, c'est-à-dire de la vie de Jésus sur terre, elle peut commencer. Là, on commence à raconter, Jean commence à raconter ce qui se passe, c'est-à-dire Jésus qui arrive, par exemple le premier miracle, c'est qu'il change l'eau en vin, ensuite il rencontre Nicodème, ensuite il rencontre la Samaritaine, et toute l'histoire ensuite de Jésus se déroule après qu'on ait placé ces éléments extrêmement clairs de savoir qui il est vraiment. Ces éléments extrêmement clairs du prologue, ça nous permet de lire tout le reste de l'histoire avec des yeux comme Dieu le veut. Alors voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Mais toi, tu es qui ?» Il le reconnut, il ne le lia pas. Il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils insistent, hein. Il le reconnut, il ne lia pas, il le reconnut. Je pointe de nouveau sur le Christ. Ils lui demandèrent « Mais alors quoi ? T'es qui toi ?» Élie, il dit « Je ne le suis pas. Est-ce que c'est toi qui es le prophète ?» Il répondit « Non. » De dire « Mais alors qui es-tu ?» Pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ?» Il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » La figure de Jean, le témoin par excellence, est celui qui précède, celui qui fait découvrir, celui qui prépare le chemin pour l'arrivée du Christ. Il a été choisi pour faire le trait d'union entre la dimension surnaturelle de la personne de Jésus et son insertion dans l'histoire des hommes. Et cette mise en évidence, ce trait d'union est significative pour comprendre à nous et à notre tour notre rôle de témoin, notre rôle d'image de Dieu, de reflet du Christ dans le monde. Il y a quelque chose de la foi, du fait d'être image de Dieu, qu'on ne peut pas saisir. C'est tout ce début du prologue. On ne peut pas. On essaye de l'exprimer, mais nos mots sont bien faibles pour vraiment dire ce qu'il y a là derrière. C'est sur les attributs de Dieu qui nous dépassent et surtout qui lui appartiennent. Ce qui permet de saisir, ce sont ces traits d'union, ces personnes de passage. Ces transmetteurs dont Jean demeure le modèle par excellence. Et si on comprend bien notre place pour être image de Dieu, on a compris énormément de choses sur comment on va le vivre. Si on comprend que notre place, elle est à l'intersection entre un être qui nous dépasse et l'histoire, notre réalité de femme et d'homme en 2019 à Nyon, on a déjà fait un bon bout du parcours de qui nous sommes appelés à être en tant qu'image de Dieu. On est là, au milieu. On n'est ni tout en bas seulement au niveau des hommes. On n'est pas déjà dans les hautes sphères spirituelles en train de planer. On est vraiment au milieu. Et on est appelé à assumer cette place-là au milieu. Nous sommes à cette intersection. Et puis en tant que chrétien, c'est vrai qu'on est un peu souvent tiraillé entre ces deux pôles, parce que soit on aimerait bien déjà être tout au ciel, et puis planer, et puis plus avoir vraiment de difficultés, puis là on se sentirait bien, et puis en plus on se sentirait fort, parce que spirituellement on est dans le juste. Ou alors, et puis c'est notre tendance dans les courants chrétiens, c'est qu'on considère que les aspects très horizontaux de la foi chrétienne, où tout devient assez presque humaniste, puis on continue de voir que l'amour pour le prochain comme étant la seule perspective. Non, en tant que témoin, image du Christ, on est appelé à rester dans cette intersection, à être passeur sur cette échelle entre la terre et le ciel. Il y a la terre où nous sommes, mais nous sommes en connexion avec le ciel. Dieu, il n'a pas choisi de rester inconnu. Dieu, il a choisi de se révéler et de vivre ce passage le plus souvent possible. Et la construction habile de ce prologue que j'ai tâché de mettre en avant ici, j'espère que ça a été saisi, nous permet de résister à cette tentation de choisir un pôle ou l'autre pôle. On est au milieu, il y a au commencement et tout à coup survint un homme. Que nous puissions aussi prendre notre place, d'être image de Dieu, d'être ses témoins, précisément à cet endroit-là. Et c'est ça, être image de Dieu dans le monde. Et dans cette société dans laquelle nous sommes, dans une société de l'image, avec Instagram et compagnie, vous l'avez vu, c'est quelque chose, d'après moi, qui doit nous parler. On ne peut plus se contenter d'être des chrétiens un peu discretos, qui se la jouent à se dire bon, on ne va pas trop s'afficher. On est dans cette société où l'image, le fait de s'afficher, dire qui on est, c'est présent, mais à tous les coins de rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À tous les coins de rue, à chaque instant sur nos téléphones, c'est présent. On s'affiche tel que l'on est. Et puis, pour nous, par rapport à notre histoire d'église évangélique, ce n'est pas si facile que ça à saisir. Parce que pendant des dizaines d'années, qu'est-ce qu'on a cultivé plutôt ? Une certaine forme de discrétion pour différentes raisons historiques qui peuvent s'expliquer, puis je ne critique absolument pas ce qui s'est passé. Mais je crois que pour maintenant, notre époque, notre rôle de témoin et d'être image de Dieu, c'est oser s'afficher tel que nous sommes en tant que croyants et disciples du Christ. On n'est plus à rester dans une forme de discrétion, d'après moi, mais on est appelé à dire simplement qui l'on est, croyant dans ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Pas dans une force qui nous dépasse, pas seulement dans l'amour du prochain, mais dire qu'on est croyant dans une force qui nous dépasse et qui devient tout à fait réelle avec l'amour du prochain et la visée qui nous est donnée à être image de Dieu. On n'est pas dans l'abstraction, on n'est pas dans le côté terre-à-terre uniquement. Et je crois que c'est un peu une interpellation que je nous laisse, parce que ce n'est pas si facile que ça par rapport à toute notre histoire, plutôt de discrétion par rapport à la foi, plutôt de dire « oh, je ne vais pas trop m'afficher », de vraiment prendre conscience qu'on est dans cette société de l'image, dans cette société où tout s'affiche, tout s'exprime, et puis que si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Si on ne le fait pas, si on reste discret, d'autres vont prendre cet espace et puis ils le prennent déjà bien. On l'a vu avec ces dizaines de milliers de personnes qui suivent des modèles. Nous, je vous encourage humblement à oser prendre notre place et à oser nous afficher. Les deux ne sont pas antinomiques. Hein. On peut être humble et oser s'afficher. On peut tout à fait s'afficher de manière humble, simplement en assumant qui on est, et surtout ce que Dieu fait dans nos vies, voilà, tout simplement, au quotidien, qu'il est notre soutien, qu'il est à notre côté. Et puis, je rajoute encore une couche de la difficulté, parce que je vais revenir sur ce verset 14, où il est dit que la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, elle a habité parmi nous, et nous avons vu quoi ? Nous avons vu sa gloire. Alors, gloire, pour nous, ça évoque tout de suite quelque chose d'assez inaccessible. C'est quelque chose de nouveau qui nous dépasse. Ou bien même pire encore, on peut voir une notion un peu tachée d'orgueil, de un peu m'as-tu vu. Puis si on regarde la définition de gloire, vous allez voir que c'est presque tout des gros mots pour les chrétiens comme ça. Célébrité, renommée très répandue dans un très vaste espace public, tenant à des mérites, des actions et des œuvres jugées remarquables. Honneur, lustre, rayonnement, renommée, réputation, ambition. Ce n'est pas tellement bon hein, pour nous, ça. On se dit, ça, c'est presque autant de péchés que de choses que je pourrais mettre en avant, voire même des valeurs. Et pourtant, nous sommes appelés à être témoins de la gloire de Dieu. Témoins de ces éléments de renommée, de rayonnement, de réputation. Et je crois qu'en intégrant, pour aller encore un tout petit peu plus profond, cette image de Dieu comme étant l'image et rendre témoignage de la gloire de Dieu, on va presque plus pouvoir faire autrement que de vouloir être ses ambassadeurs, puis de chacun faire notre page Instagram, I am a Jesus follower, et puis de nous afficher comme tel. Bien sûr, il y aura mille et une manières différentes que vous allez utiliser et choisir pour rendre témoignage de la gloire. Mais osons ne pas limiter ce que Dieu prévoit pour nous. Parce que Jean, il lui a demandé d'être témoin de la gloire de Dieu. témoin de la lumière. Pas quelque chose qui se cache ou qui minimise ou qui quelque chose à excuser, je ne sais pas quoi. C'est assez offensif comme volonté, c'est assez offensif comme manière de témoigner. J'ajoute quand même, pour bien comprendre ce terme de gloire, que ça reste une gloire paradoxale qui culmine à la croix et à la résurrection. Ce n'est pas une gloire qui cherche à avoir 150 millions de followers et puis d'arriver en venant devant, mais c'est une gloire qui s'offre et qui s'abaisse pour venir jusqu'à nous. Mais ça reste une gloire, et Dieu choisit de révéler sa gloire dans ce domaine-là, c'est-à-dire sa renommée, son lustre, sa réputation, son ambition. Alors, ma prière pour nous, c'est que on puisse vraiment, comme ce verset clé nous le montre, vivre notre foi chrétienne, le visage dévoilé. Le visage tel que Dieu nous l'a donné, tel que Dieu l'a voulu pour nous, c'est-à-dire d'être image de Dieu et d'être témoin de sa gloire. De pointer sur qui est Jésus et de pointer sur lui en tant que personne qui a été choisie par lui pour être image de Dieu. Telle est l'œuvre du Seigneur en nous, telle est l'œuvre de l'Esprit qui nous habite et telle est l'œuvre que je nous souhaite à chacun, à chacune, de pouvoir vivre, de pouvoir aussi approfondir en méditant la parole, parce qu'on voit qu'en méditant la parole et la connaissance de Dieu, on peut se laisser inspirer pour savoir après comment vivre notre image de Dieu dans le monde. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous veux image de Dieu, image de toi dans ce monde. Merci parce que tu nous appelles à assumer ce rôle avec qui nous sommes déjà aujourd'hui. Merci parce que tu nous mets à l'œuvre déjà avec qui nous sommes aujourd'hui et pas avec tout ce que nous devrions faire pour être comme nous espérons être. Tu nous prends tel que nous sommes, Seigneur. Fais-nous la grâce de vivre ce statut que tu nous as donné, de ne pas le minimiser. Et fais-nous la grâce de pointer sur toi, Seigneur, pour que d'autres puissent te connaître, d'autres puissent connaître ton amour, ta bonté, ta bienveillance à leur égard. Seigneur, merci pour ce sens à notre vie que tu donnes. Merci pour cette identité dans laquelle tu nous établis. Et Seigneur, que ta grâce coule en nous pour que nous puissions la vivre au mieux. Amen.